Des sous et des hommes. Une émission proposée et présentée par Pascal Fourier tous les mardis de 17h à 17h30. Et notre invité aujourd'hui est Christophe Rameau,
qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1.
On entend souvent dire que la Banque Centrale Européenne a pour unique objectif la lutte contre l'inflation. Pourtant, on peut lire par ailleurs que la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, elle a deux buts. Lutter contre l'inflation elle aussi, mais aussi lutter pour la croissance et donc pour l'emploi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Banque Centrale Européenne fait-elle le choix de ne lutter que contre l'inflation ?
Ce qu'on peut dire, c'est que pour le coup, ça démontre que l'Europe est peut-être une construction plus libérale encore que ne le sont les États-Unis. C'est-à-dire que, pour aller vite, on peut dire que les États-Unis, depuis 20 ans, par exemple, ont mené des politiques de relance, qui étaient plutôt des politiques budgétaires sous Reagan, et puis des politiques de relance plutôt monétaires, on verra peut-être après ce que ça signifie, sous Clinton. Alors que la Banque Centrale Européenne, effectivement, dans ses statuts, alors on pourrait dire que ce ne sont que des statuts, mais ça témoigne de quelque chose quand même, dans ses statuts, il est indiqué que l'objectif, le seul objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est la lutte contre l'inflation. Et ce qui serait peut-être souhaitable d'expliquer, c'est que derrière tout ceci, il n'y a pas des problèmes techniques qui sont posés. C'est pas compliqué à comprendre. Derrière tout ceci, il y a des choix politiques, il y a des choix sociaux qui sont faits.
On peut peut-être rappeler déjà au départ, bêtement, ce que c'est que l'inflation.
L'inflation, c'est l'augmentation des prix.
Et à ce moment-là, pourquoi faut-il lutter contre ?
Alors, le problème pour la Banque Centrale Européenne, c'est quoi ? Je vais peut-être partir directement sur le résultat final. Mm-hmm. C'est que je fais partie des économistes qui pensent que la Banque Centrale Européenne est au service de la finance, pour aller directement au résultat. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie que pour la finance, l'inflation, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tout simplement, quand il y a de l'inflation, eh bien, ça rogne sur les rentes de la finance.
La finance, ça veut dire les personnes qui placent de l'argent dans les entreprises, par exemple ?
Les détenteurs d'actifs financiers, notamment d'actions, qui sont propriétaires de titres de propriété des entreprises à travers les actions.
D'accord.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a deux raisons pour lesquelles la Banque Centrale Européenne n'aime pas l'inflation. Une raison, et les deux sont parfaitement cohérentes. Une première raison, c'est l'inflation, ça rogne sur les rentes, c'est ce que je viens de dire. Et donc, moins il y a d'inflation, et plus les revenus financiers sont élevés.
Il faudrait peut-être l'expliquer. Ça veut dire, par exemple, que si j'ai placé de l'argent d'une façon ou d'une autre à 5% et qu'il y a 6% d'inflation, on pourrait dire, je perds de l'argent plutôt que je n'en gagne. C'est bien ça.
Vous perdez 1% là, dans cet exemple. Tout à fait. Et alors, l'autre élément, peut-être, c'est que, alors, qui est complémentaire au précédent, c'est le fait que la Banque Centrale Européenne, en fait, ce qu'elle redoute par-dessus tout, c'est les hausses de salaire. Alors, une des sources possibles de l'inflation, c'est pas les seules, c'est pas la seule, c'est la hausse des salaires. C'est-à-dire que s'il y a hausse des salaires et que les entreprises répercutent ces hausses de salaires sur le prix de vente de leurs produits, et si toutes les entreprises font ça, eh bien, il y a bien hausse des prix. Et l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est aussi, d'un certain point de vue, par sa politique, de maintenir une norme de partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit qui soit favorable au profit. Et donc, quelque part, l'objectif, on peut dire que l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'abord et avant tout de maintenir les revenus financiers et de maintenir un partage de la valeur ajoutée qui soit favorable au profit. Et pour ce faire, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ces premiers pas témoignent du fait qu'elle est prête, y compris à étouffer la croissance, à casser la croissance et donc à casser la spirale de l'emploi pour mieux satisfaire ses exigences, alors que la Banque Centrale Américaine a peut-être une politique un peu plus équilibrée.
Globalement, vous voulez dire que la Banque Centrale Européenne préfère la lutte contre l'inflation plutôt que de faire de la lutte contre le chômage. J'ai bien compris.
Tout à fait, bien sûr. La thèse centrale de la Banque Centrale, de la Banque Centrale Européenne, qui est une thèse libérale, et c'est inscrit en tant que tel dans tous les communiqués de la Banque Centrale Européenne, c'est l'idée que pour lutter contre le chômage, la seule politique qui est efficace, c'est ce que les libéraux appellent des politiques structurelles. C'est-à-dire, c'est l'idée que s'il y a du chômage, c'est parce qu'il y a des structures intempestives, des structures néfastes sur le marché du travail, qui sont le SMIC, qui sont les allocations chômage, les minima sociaux. Et donc il y a l'idée que s'il y a du chômage, c'est parce que le coût du travail il est trop élevé, à cause des structures comme le SMIC, les minima sociaux, les allocations chômage. Et donc le seul moyen, selon ces libéraux, pour réduire le chômage, c'est de soit de démanteler ces structures, ça c'est les ultralibéraux, soit de les contourner par des mesures du type aide à l'emploi, mais qui permettent de faire baisser le coût du travail pour les entreprises. Donc il y a l'idée commune à tous les libéraux que le seul moyen pour lutter contre le chômage, c'est de réduire le coût du travail. Et donc, ce que dit la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'on appelle les politiques économiques, c'est-à-dire les politiques budgétaires. L'État augmente ses dépenses. Ou les politiques monétaires de baisse des taux d'intérêt pour soutenir l'investissement et la consommation. Eh bien, ce que dit la Banque Centrale Européenne, c'est que ces politiques-là sont inefficaces.
Ça veut dire, en gros, que la Banque Centrale Européenne, d'une certaine façon, lutte aussi pour une certaine précarisation de l'emploi, ou du moins une forme de mauvaise rémunération. Je ne sais pas trop comment dire les choses.
La Banque Centrale Européenne, elle vous dit que pour résoudre les problèmes d'emploi, il faut se focaliser sur une seule chose, qui est le marché du travail. Il y a l'idée que l'emploi, il est fixé sur le marché du travail. Pour les keynésiens, ou pour les marxo-keynésiens, pour les économistes critiques, il y a l'idée que l'emploi, il dépend bien entendu en partie du coût du travail dans une économie capitaliste. Mais il dépend pas que de ça. Il dépend d'abord et avant tout de la demande anticipée par les entreprises. C'est-à-dire du carnet de commandes anticipé par les entreprises, de l'état de la confiance générale. Et donc, pour les économistes critiques, il y a l'idée que le salaire, par exemple, ne joue pas nécessairement en tout lieu et en tout temps contre l'emploi. Mmh. Des hausses de salaire peuvent être favorables à l'emploi. On peut par exemple dire qu'entre 97 et 2001, on a eu beaucoup, beaucoup de création d'emplois en France, y compris des emplois, donc ça rejoint un peu votre question sur la précarité. Au début, c'était des emplois précaires, mais entre 2000 et 2001, il y a eu 500 000 emplois créés, 500 000 emplois nets de créés, de création nette d'emplois, et la contribution de l'emploi précaire, c'est zéro. Ce sont les emplois créés, ça a été tous globalement 500 000 emplois en CDI et en plus à temps plein. Bon. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces 500 000 emplois, puis au-delà, les plus d'un million 700 000 emplois créés entre mi-97 et mi-2001, bon, il y a un retournement de la conjoncture, mais on peut dire que, dans une optique donc plutôt keynésienne, c'est que ces emplois ont été permis par un relâchement des dogmes libéraux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu relâchement de l'austérité budgétaire. Au lieu d'avoir le franc fort, on a eu l'euro faible. Et puis, il y a eu relâchement de l'austérité salariale. C'est-à-dire qu'il y a eu une légère relance salariale. Alors, on pourra voir peut-être éventuellement après qu'elle est liée, y compris au fait que l'inflation, a été plus faible que celle qui était anticipée. Non, ça a joué surtout en 98-99. L'inflation a été plus faible, donc ça signifie quoi? Ça signifie que les gains de pouvoir d'achat, finalement, ont été plus importants. Et donc, il y a eu hausse des salaires réels. Pas très importante, mais plus importante que la stagnation, plus significative donc que la stagnation qu'on avait eue précédemment. Donc, il y a eu relâchement des trois piliers libéraux qui ont marqué la vie économique et politique entre 83 et 97. Les trois piliers de ce qu'on appelait la désinflation compétitive, c'était quoi? C'était l'austérité salariale, l'austérité budgétaire et, le franc fort. Eh bien, ces trois piliers, ils ont été relâchés. Et c'est ça qui a permis les créations d'emplois. C'est ça qui a permis les créations d'emplois qu'on a observées en France et qu'on n'a pas observées beaucoup moins dans des pays comparables comme l'Allemagne et l'Italie. Parce que c'était plus fort en France, puis parce que par ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, ça a été accompagné en France d'une réforme structurelle, mais là de gauche, qui est les 35 heures, qu'on n'a pas connue bien entendu, ni en Allemagne ni en Italie.
Écoutez, Christophe Rameau, je suis quand même étonné après ce que vous me dites. Finalement, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que les recettes keynésiennes marchent, c'est-à-dire que le fait de donner du pouvoir d'achat aux gens marche, favorise l'emploi, et pourtant on est en train de s'accrocher de façon, on pourrait peut-être dire dramatique, aux préceptes libéraux. Je ne comprends pas très bien.
Plusieurs remarques. D'abord, les recettes keynésiennes, c'est pas simplement de donner du pouvoir d'achat. Enfin, j'y reviendrai. Mais comment dire, peut-être pour répondre à la question, le mieux c'est de bien resituer les enjeux. Pour les libéraux, c'est simple. Le marché laissé à lui-même, c'est le système le plus efficace. Et donc les politiques économiques publiques, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans l'économie, ça crée des perturbations. C'est pas bon. Alors, il y a des sociaux libéraux qui disent qu'il faut que l'État intervienne pour essayer de se rapprocher pour essayer de surmonter les imperfections de l'économie marchande et donc de se rapprocher de l'idéal de la concurrence parfaite. Bon, mais passons sur cette nuance-là, on pourrait y revenir éventuellement. Mm-hmm. Mais voilà, l'idée de base des libéraux, c'est l'idée que le système de marché laissé à lui-même, c'est un système efficace. Très bien. L'idée de base des marxistes et des keynésiens, qui se rejoignent là pour le coup, même s'il y a beaucoup de différences entre Marx et Keynes, c'est l'idée qu'au contraire, le système de marché capitaliste laissé à lui-même est inefficace. Voilà. Bon, et donc la conclusion qu'en tire plutôt les keynésiens, mais dans une problématique aujourd'hui, on peut tout à fait relier Marx et Keynes à ce niveau-là, eh bien c'est de dire que justement, l'État doit intervenir pour imposer au système des choses qu'il n'est pas en mesure de produire spontanément. C'est quoi qu'il n'est pas en mesure de produire spontanément, ce système capitaliste marchand? C'est le plein emploi, la lutte contre les inégalités, le développement du Sud, etc., etc. Et donc il faut que l'État intervienne pour imposer au système des règles qui lui sont en fait a priori étrangères. Alors, voilà le point de départ. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, dans une optique keynésienne, eh bien, il faut que l'État utilise une série d'instruments, ce qu'on appelle la politique économique, Alors, dans lesquels il y a en fait trois grands instruments. Il y a la politique budgétaire, donc c'est l'idée que quand il y a des retournements à la baisse de la conjoncture, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il faut que l'État soutienne l'activité, soutienne par ses dépenses, en programmant des dépenses publiques. C'est ce que vient de faire en partie Bush. En partie, hein, seulement, il faut faire attention à pas non plus, associer Bush à un gaucho keynésien, parce qu'il n'est pas non plus. On pourrait y revenir sur les politiques de baisse des impôts qu'il préconise, sont quand même des mesures qui sont très ciblées sur les très riches, qui ont par ailleurs financé sa campagne. Mais dans une optique keynésienne, indépendamment de Bush, qu'on pourrait dire, c'est donc il y a les politiques budgétaires, hausse des dépenses, d'accord. Et de ce point de vue-là, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement Jospin, eh bien, il reste largement au milieu du guet. Hein, c'est-à-dire ce dont on a besoin aujourd'hui l'économie française, c'est une véritable politique de soutien de l'activité qui doit passer notamment par une augmentation des dépenses publiques, qu'on pourrait tout à fait combiner avec une augmentation au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait aujourd'hui, face à la récession qui pointe, se dire, eh bien, il faut que, à l'échelle européenne, l'Union européenne mette en place un programme de relance en termes notamment de travaux publics, le ferroutage par exemple, puisqu'il y a ce problème-là qui existe et qui nécessite des investissements absolument colossaux, puis on pourrait dire, voilà, la Banque Centrale Européenne doit lancer un vaste programme pour le ferroutage. Il y a d'autres domaines où elle pourrait mettre en œuvre ce type de politique. Donc premier élément, la politique budgétaire pour soutenir l'activité. Très bien. Deuxième élément, la politique monétaire. C'est l'idée qu'on baisse les taux d'intérêt. Et qu'en baissant les taux d'intérêt, eh bien, ça incite les entreprises à emprunter pour investir, et puis aussi les ménages, d'ailleurs, à emprunter pour consommer. Et donc, ça soutient la production de machines, l'investissement, et puis ça soutient la production de biens de consommation. Donc, les deux grands secteurs, en fait, de l'économie. Et puis, troisième politique, la politique des revenus, qu'évoquait Keynes, d'ailleurs. On l'oublie souvent. C'est-à-dire que la politique des revenus, bah, ça consiste à distribuer du pouvoir d'achat, et puis surtout à lutter contre les inégalités. C'est-à-dire, il y a l'idée que, en redistribuant les revenus, eh bien, on donne aux pauvres, qui consomment beaucoup, quand vous donnez 1000 francs en plus ou même 500 francs en plus à un RMiste, il va dépenser ces 500 francs en biens de consommation, il va les dépenser tout de suite. Alors que le riche, si vous lui donnez 500 francs de cadeaux fiscaux en plus, il va même pas s'en rendre compte et donc ça va pas se traduire en termes de consommation. Donc voilà les trois piliers. Et alors, ce que je peux rajouter peut-être, c'est quoi? C'est que l'expérience 97-2001 en France nous montre que le keynésianisme, ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on peut raser gratis, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire n'importe comment, mais ça marche. Là, on a une expérience en grandeur réelle. C'est pas simplement des modèles en chambre qui nous montrent que ça marche. Et alors, pour le coup, c'est à la fois quelque chose qu'on peut utiliser contre les libéraux, mais aussi peut-être contre certaines parfois critiques que je qualifierais un peu de gauchistes, qui ont tendance à dire que le keynésianisme s'est aussi dépassé. C'est-à-dire avec quelque part une espèce de thèse selon laquelle le capitalisme de toute façon connaît nécessairement des crises. Voilà, le capitalisme c'est la crise, c'est l'horreur. Et donc pour le coup, le keynésianisme de toute façon c'est une espèce de saupoudrage qui ne change rien. Bien non, je pense qu'aujourd'hui, y compris dans une perspective de transformation sociale au sens le plus fort du terme, moi je me définis, je n'hésite pas à me définir comme un anticapitaliste, mais je pense qu'il est nécessaire de soutenir le fait que la puissance publique a un rôle à jouer dans le fonctionnement de l'économie, et que y compris ce qui vaut pour aujourd'hui vaudra peut-être d'ailleurs dans une autre société. Et donc que le, comment dire, un certain discours pour le coup qui se veut radical et qui discrédite la politique économique, hein, qui pouffe à l'évocation même du nom de Keynes. Ça arrive souvent, ça, quand on prononce le mot de Keynes maintenant dans les salons, y compris les plus radicaux, on pouffe sur le thème, c'est du passé. Bien non, moi je fais partie de ceux qui considèrent que c'est justement ça, on est souvent prisonnier de ceux qu'on combat. Et bien là, je trouve que certains critiques sont pour le coup prisonniers des schémas intellectuels du libéralisme. C'est-à-dire les libéraux disent que le keynésianisme est inefficace, et malheureusement certaines critiques leur emboîtent le pas.
Et est-ce que les libéraux ont quelques arguments crédibles qui réussiraient à prouver clairement qu'effectivement le keynésianisme est complètement ringard et dépassé?
Oui, ils ont des arguments. Le problème n'est pas un problème. Enfin, ils ont des arguments, mais je ne sais pas comment prendre là le sujet. Je pense que ce qui est important, c'est de bien saisir, y compris pour revenir peut-être sur le sujet de l'inflation qui était le thème, c'est de bien saisir quelle est la différence de cohérence logique. Les libéraux ont leur cohérence logique d'un point de vue de la logique formelle. Il y a une certaine cohérence. Ils vous disent le chômage, il est fixé sur le marché du travail. Il dépend que d'une seule chose, fondamentalement, c'est le coût du travail. Donc, le seul moyen pour augmenter l'emploi, c'est de baisser le coût du travail. Ça a le mérite de la cohérence, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, tout le reste, c'est inefficace. Les politiques budgétaires, les politiques monétaires, c'est inefficace. Voilà. Ça a le mérite de la cohérence, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et, à l'inverse, les keynésiens vous disent que c'est l'efficacité, il faut la trouver de ce côté-là.
Aligre FM 93.1 est l'émission des sous et des hommes avec Christophe Rameau qui nous parle de l'inflation et forcément, si j'ai bien compris donc, du chômage en même temps. À ce propos, quand on s'intéresse à ces deux thèmes, il y a un terme qui apparaît assez rapidement dans les livres, c'est le terme du NERU. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que c'est que ce concept?
Alors tout d'abord, c'est les initiales en anglais de le taux de chômage qui n'augmente pas l'inflation. Et donc, sur ce sujet-là, on est renvoyé à nouveau aux deux cohérences dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour les libéraux, c'est simple. Le seul moyen pour réduire le taux de chômage, c'est de baisser le coût du travail en démantelant les structures. C'est pour ça qu'ils parlent. Le chômage, il est structurel, et donc le seul moyen pour le réduire, c'est de briser ou de contourner les structures. Voilà, la première cohérence. Et donc, ce que vous disent les libéraux, c'est que si on mène des politiques de relance, si l'État mène des politiques de relance, quelles qu'elles soient, eh bien ça va tourner à vide. Il y a l'idée que les entreprises, à cause du coût du travail, elles ne peuvent pas augmenter leur emploi. Et donc, si l'État essaye de relancer l'activité, ça va se traduire par de l'inflation. Mais le taux de chômage ne va pas baisser. À l'inverse, ce que disent les keynésiens, les économistes critiques, c'est qu'on peut mener des politiques économiques de soutien de l'activité, des politiques budgétaires, des politiques monétaires, des politiques de revenus, et ça va permettre d'augmenter l'emploi, de réduire le taux de chômage. Et dans ce cadre-là, il peut exister des tensions inflationnistes. Ça peut provoquer quelques petites tensions inflationnistes. C'est-à-dire, pourquoi? C'est tout simple. Il y a l'idée que quand le taux de chômage se réduit, eh bien, les salariés, ils ont moins peur de demander des hausses de salaire. Ils sont moins sensibles, y compris au discours patronal sur le thème « commencez pas à crier, vous êtes bien lotis, il y a des chômeurs dans la rue ». Ce discours-là passe moins à partir du moment où il y a moins de chômeurs. Puis il y a moins la peur de se retrouver au chômage. Donc, qui dit baisse du chômage dit bien souvent hausse des conflits sur les salaires et hausse de salaire. Très bien. Et puis dans le même temps, les entreprises elles-mêmes, quand il y a moins de chômage, eh bien, elles ont plus de mal à trouver de la main-d'œuvre. Elles se rendent compte, elles sont y compris soucieuses de garder leur main-d'œuvre. Elles redécouvrent la qualité de leur main-d'œuvre. Et donc elles ont peur que la main-d'œuvre aille voir ailleurs. Et pour pas qu'elles aillent voir ailleurs, eh bien, parfois elles sont obligées de concéder des hausses de salaire. Donc, dans l'un et l'autre cas, qui dit baisse du chômage peut dire légère hausse de l'inflation. Mais je dirais que là, l'inflation, c'est plutôt un bon signe. C'est l'idée qu'on se rapproche du plein emploi. C'est l'idée qu'il y a des tensions, on se rapproche du plein emploi. Et donc, y compris, ça peut inciter les entreprises à innover, à investir pour innover. Donc, tout ça est une bonne chose. Voilà.
Et si on pense que le NERU est une chose importante, qu'effectivement c'est un chiffre qui était de 8 ou 9% au moins une époque pour la France, et si on pense que ce concept a de l'importance, est-ce que ça veut dire qu'on renonce donc à toute lutte pour l'emploi? C'est-à-dire qu'on accepte effectivement ces 8 ou 9% de chômage?
Non mais déjà, quand vous dites le NERU est à 8 ou 9%, ça c'est le discours, il faut bien avoir conscience que c'est le discours des libéraux. D'accord? Les libéraux disent... le taux de chômage structurel en France, il disait en 97 que le taux de chômage structurel en France, il était à 12,6. Ça tombe bien, il était au taux de chômage effectif, vous voyez. Donc le seul moyen, ce qu'il disait, c'était, bah, comme le taux de chômage structurel, le Nérou, il est à 12,6, le taux de chômage d'équilibre, tout ça est synonyme, hein, taux de chômage d'équilibre, taux de chômage structurel, taux de chômage naturel aussi. Bon, ça renvoie à l'idée qu'il y a un taux de chômage qui est naturellement donné par les structures de l'économie. C'est pour ça que tout ça est synonyme. Donc les libéraux, ils ont toujours tendance à dire que le taux de chômage structurel, il est au taux de chômage effectif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui fait rire d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, le taux de chômage, il est passé de 7% au début des années 90, au moment de la récession, en 91, et ensuite il a baissé. Et donc, les économistes libéraux avaient tendance à dire, ah bah tiens, le taux de chômage d'équilibre, il a baissé. Il est passé de 7 à 6, puis à 5, puis à 4, puis à moins de 4, parce que le taux de chômage effectif baissait. D'un point de vue keynésien, il baissait parce qu'il y avait des politiques de relance. Voilà. Donc, pour les libéraux, le taux de chômage structurel, le taux de chômage d'équilibre, il est toujours au taux de chômage effectif. Ce qui est parfaitement cohérent avec leur logique. Ça leur permet de dire, le seul moyen pour réduire le chômage, c'est de baisser le coût du travail. Les politiques économiques de soutien de la demande sont inefficaces. Et donc, quand la Banque Centrale Européenne, comment dire, reprend il n'y a pas qu'elle, mais reprend ce cadre théorique, cette cohérence-là, eh bien, elle montre parfaitement qu'elle est dans un cadre qui est parfaitement libéral. Sa cohérence est parfaitement libérale. Ce qu'on peut dire quand on est critique, c'est quoi? C'est que, bah, pour le coup, derrière des arguments pseudo-scientifiques, il y a des intérêts sociaux en fait qui sont très clairement présents. C'est-à-dire ce que nous dit la Banque Centrale Européenne, c'est que si on mène pas des politiques de baisse du coût du travail, elle ne fera rien en termes de baisse des taux d'intérêt notamment.
Donc ça veut dire que c'est un véritable chantage d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Enfin, ça signifie que c'est une forme de chantage, tout à fait. Mais qui repose sur une conviction, hein, y compris que les seules mesures qui marchent, c'est les politiques libérales. Je pense que dans cette histoire-là, il y a à la fois, hein, il ne faut pas être complètement machiavélique, je pense qu'il y a à la fois une part de conviction théorique, et puis il y a une part d'intérêt bien compris, bien entendu, oui, tout à fait. Mais il y a les deux, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que des intérêts bien compris. Enfin, je pense qu'ils sont quand même particulièrement présents.
Écoutez, Christophe Rameau, je vous remercie vivement de nous avoir expliqué donc ce qu'était l'inflation et les incidences de la lutte contre celle-ci. Je tenais à signaler que sur la 5e, le 2 décembre et le 9 décembre, un reportage fait par Gilles Balbastre sera diffusé à 16h. Un reportage qui s'appelle « Le chômage a une histoire ». Et nous recevrons très bientôt Gilles Balbastre lui-même qui nous parlera de son reportage.